quelle idée de l'homme avez-vous?
Eh bien, je crois que l'homme a été, sinon un mauvais rêve, sinon un cauchemar, du moins une figure très particulière, très déterminée, historiquement située à l'intérieur de notre culture.
Vous voulez dire que c'est une invention?
C'est une invention que l'homme.
Eh bien, bonjour chez vous. Vous êtes bien à l'écoute de Canal Sud. C'est l'émission À vie d'ordure qui débute. Émission numéro 6.2.0. Une émission un petit peu particulière ce soir. En effet, car l'équipe, bon, alors, n'est toujours pas au complet. Steph n'est toujours pas là. Alors on va vérifier Steph.
Ok.
Non, Steph, t'es là?
Ok.
Non, mais surtout, nous avons la chance de recevoir dans les studios ce soir Griff. So, Griff, I'm very honored to meet you. Hi.
Hi.
Hi. Is it possible to introduce you, please?
We are Griff.
Okay.
Griff.
Thank you. And you?
Yeah, same.
Okay. Well, okay. Just before to start the interview, we will listen a sound of your band, Depression, and another time. Thank you very much to be here.
Thank you.
Thank you. Alors on me dit à la régie qu'il y a une erreur en fait, vous êtes Griff de Toulouse.
Oui,
okay,
exactement.
C'est pour ça que tu ressembles à Ludo en fait.
Il paraît, ouais.
Ok, d'accord. Bon, alors juste avant de débuter l'interview, ce sketch raté et gênant vous a été proposé par Happening Mime et Mimolette. Bientôt sur le parking de Mutant du off du Mima de Mirepoix cet été.
On a hâte.
Ouais. Réservé par contre. Hein.
Okay.
Parce que là, il y a 2-3 punks à chiens déjà qui sont chauds. Mais bon, on est en pleine négociation. C'est le parking. Vous voyez le parking de Mutant à Mirepoix?
Oui, oui.
Ouais, oh, bon. Ouais. Bon, on y sera.
Almost.
Fischer, Almond.
Quelle idée de l'homme avez-vous ?
Eh bien,
dans votre dernier projet, Construire le vide, vous avez un titre qui s'appelle La colère est aveugle. Et donc, première question, quelle est votre définition de la colère, Grief ? Donc, c'est Ludo et Quentin. Hein, pour...
Définition de la colère. Comment dire ? Je sais pas, pour moi, c'est une émotion qui peut être une nécessité, je pense, par le fait qu'elle permet de sortir des choses qui. Après, il faut en faire quelque chose de productif, je pense.
Tu le vois comme quelque chose, en tout cas, qui peut amener à la construction de quelque chose.
Ouais, je pense que des fois, il y a besoin d'être en colère pour pouvoir passer un cap et faire certaines choses, je pense.
Carrément.
Et que c'est pas forcément une émotion négative qu'il faut réprimer. Et je pense que c'est différent peut-être de la haine, je sais pas. Mais ouais, il y a un truc comme ça, je pense, où on peut s'en servir, en tout cas.
Moi, je pense qu'elle est aussi vachement liée à... au départ, un sentiment d'injustice, c'est-à-dire que, en fait, c'est souvent l'injustice qui amène la colère, et après, c'est justement comme disait Ludo, c'est à nous aussi de savoir comment utiliser en fait ce sentiment d'injustice qui se transforme en colère pour en faire quelque chose de constructif et de positif.
En fait, c'est comme un outil, et en fait, tout dépend de la main qui tient l'outil quelque part. Ce qui va décider, en fait, l'impulsion sera donnée par le cerveau, donc tout dépend du cerveau, de la main.
C'est ça.
Et ouais. Qu'utilise l'outil colère.
La colère est un cadeau.
Alors, la colère est un cadeau. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous proposer trois sons, en fait, de colère un peu différentes et un peu schématiques pour voir un peu votre mood de colère, entre la colère impulsion et moteur de fait, mais de fait utile. Donc, premier son, alors vous me dites ce que vous en pensez. En fait, on peut aussi extrapoler parce que ça parle de la colère, mais aussi de la famille. Parce que la famille peut amener de la colère, peut amener à la colère.
Maman, tu sais pas ce qui m'arrive. Peut-être Marie m'a quitté, je suis complètement déprimé. Je comprends absolument pas ce qui s'est passé. Et en plus, j'ai perdu mon boulot le même jour, tu te rends compte ?
Victor, ta mère a un amant.
Hein ?
Et elle a décidé de me quitter pour partir avec lui.
Hein ?
À 50 ans, elle se barre avec un mec de 10 ans plus jeune qu'elle.
Voilà.
Et papa reste tout seul.
C'est qui ?
Monsieur Borin.
Monsieur Borin ?
Marié, deux enfants.
Monsieur Borin, celui-là, là ? Oh la vache, le fume.
Tu te le fais pas dire.
Maman, t'es complètement dingue ou quoi ? Et où tu vas aller ? Et papa, et moi ? J'ai des problèmes, moi. Marie m'a quitté, j'ai perdu mon boulot, je suis complètement...
Alors écoute, Victor, tu arrêtes. Tu arrêtes tout de suite. Tu te tais et tu m'écoutes, d'accord ? Alors écoute bien. Tes problèmes de boulot, tes problèmes avec ta femme, tes problèmes de fric, tes problèmes en général et en particulier, moi, ta mère, je m'en fous comme de l'an 40. Tu m'entends, je m'en fous. Mais alors, je m'en fous. Je peux pas te dire à quel point je m'en fous. Je n'en ai vraiment rien, rien, rien à foutre.
Mais merde, c'est pas croyable. Ma propre mère se fout de mes problèmes.
Je te dirai encore mieux. Non seulement je me fous de tes problèmes, mais je me fous également des problèmes de ta sœur. Je m'en fous totalement. Attends, il y a encore plus rigolo. Je me fous royalement des problèmes de ton père.
Mais je rêve. Ma parole, je rêve.
Non, non, mon lapin, tu ne rêves pas. Pendant 30 ans, je vous ai torché, nourri, couché, levé, consolé, tous les trois. J'ai repassé vos chemises, lavé vos slips, surveillé vos études. Je me suis fait des monceaux de billes, je n'ai vécu que pour vous, qu'à travers vous. J'ai écouté toutes vos histoires, vos problèmes et vos chagrins, sans jamais vous emmerder avec les miens. Alors maintenant, je prends ma retraite. Toi, il te reste une longue vie devant toi pour résoudre ta crise. Moi, il me reste très peu de temps pour résoudre la mienne. Alors tu permettras que pour une fois, je m'occupe de mes affaires avant les tiennes.
Tu vas détruire toute une famille ? Qu'est-ce que je dis ? Deux familles pour une vulgaire histoire de cul ?
Ah d'accord. Alors quand il s'agit de ton cul, c'est de l'amour, mais quand il s'agit du mien, c'est vulgaire, c'est ça ?
Oui, c'est vulgaire, c'est dégueulasse.
Enfin maman, c'est une passade, il a 10 ans de moins que toi, ça pourra pas durer.
Mon petit chéri, ça durera ce que ça durera, ça m'est bien égal. Même si ça ne devait durer qu'une heure, je referais tout pareil. De toute façon, j'ai jamais vu que la durée fasse tellement de bien aux histoires d'amour.
C'est pas une histoire d'amour, tout ce qui t'intéresse, c'est de t'envoyer en l'air.
Mais bien sûr que ça m'intéresse de m'envoyer en l'air, ça t'intéresse pas, toi ? Et même si c'était qu'une belle histoire de cul, j'ai pas le droit d'en avoir une belle histoire de cul, moi. Mais ils sont insensés, tous les deux. Comment ils croient qu'ils sont venus sur cette terre ? Vous croyez que je vous ai fait avec mes oreilles ? Je vous ai fait avec mon cul, mes petits poussins. Même qu'à l'époque, c'était drôlement chouette, le cul avec votre père. Mais voilà, que vous voulez, maintenant, il se passe plus rien entre nous. Alors, ça vous fait peut-être pas tellement plaisir de l'entendre, mais votre mère, elle a un cul qui va très bien. Il va mieux que jamais, même. Puis, il y a autre chose que vous voulez pas entendre. Je suis amoureuse. Je suis heureuse.
Bon, voilà, il y a beaucoup de trucs à dire, mais c'est sur l'idée du discours ultra percutant, en fait, d'arriver à dire exactement ce que tu veux, toi, malgré tout, même à tes proches, quoi. Mm-hmm. Donc, je sais pas si vous êtes déjà arrivé un peu ces moments.
De ras-le-bol, un peu.
Ouais, de dire ce que vous aviez sur le cœur.
Pas d'aussi. Enfin, je pense pas aussi intense.
Ouais, c'est vrai que là, c'est assez intense, mais oui, après, je pense que ça nous arrive tous, dans une certaine mesure, d'exprimer en fait un ras-le-bol, ouais. Et là, je pense qu'en plus, justement, moi, ça me fait revenir quand même vachement à cette idée de justice, dans le sens où la mère, dans cet extrait, elle parle d'abnégation et du sacrifice qu'elle a fait, en fait, pour sa famille et pour ses enfants, et justement le fait qu'elle se soit donnée, et qu'aujourd'hui en fait elle a besoin de se rendre justice, en fait, dans le sens de prendre du temps pour elle et de se retrouver, en fait. Et du coup je pense que c'est quelque part la colère, enfin moi je le vois comme ça, mais ça part vachement d'une injustice, quelle qu'elle soit, en fait. Et là, en l'occurrence, c'est celle-là, et du coup je trouve ça assez parlant,
ouais. Ouais, sur l'idée de pas rester en fait aussi cantonné dans les injonctions, en fait.
Ouais, carrément. Ouais,
de se faire écraser par tout un schéma, en fait, qui dans lequel on a été cloisonné, quoi, pendant longtemps, je pense.
Ouais, complètement. Les rôles, en fait, qu'on décide pour nous, en fait. On a abordé un petit peu l'idée de famille juste avant, Quentin. Mm-hmm. Donc, ça n'a rien à voir avec l'extrême. Mais tu disais que toi, ta famille, par exemple, t'avait amené progressivement à t'intéresser au milieu punk,
ouais,
pour
carrément.
Le coup, et à t'ouvrir l'esprit, en tout cas, à être curieux par rapport à ça.
Et même, je dirais, quelque part, en plus de m'ouvrir l'esprit, ça a appris à me responsabiliser aussi vis-à-vis de certaines choses dans la vie. Et je pense notamment au côté politique, en fait, et au côté de réflexion, et de savoir que, genre, on fait pas les choses pour rien, et qu'en fait tous nos actes ont une portée politique. Et je pense que quelque part ça m'a appris à me construire aussi en tant qu'adulte, et je trouve que c'est super intéressant, parce que du coup on se remet sans arrêt en question, et on est sans arrêt en train d'évoluer, et je pense que c'est une super bonne chose. Et on n'a pas tout le temps la chance dans la vie, en fonction des milieux dans lesquels on vient et des choix de vie qui sont faits pour nous et qu'on fait aussi parfois, on n'a pas toujours la chance de pouvoir justement remettre les choses qui nous entourent en question et essayer justement de grandir sans arrêt, en fait. Et je trouve que c'est une super chance, en fait.
Ouais, on est tous et toutes traversés, en fait, par des météores politiques sans cesse, et d'où tu viennes, en fait. Et après, on abordera un peu l'idée de déconstruction, qui est un travail un peu au quotidien. Et tu disais qu'il fallait pas rester sur ses acquis. Je trouve que c'est hyper c'est fondamental, en fait.
Ouais.
Parce que comme tu disais, la politique est dans tout, mais la politique évolue sans cesse, en fait, est émergente, et il y a des pensées nouvelles qui sont émergentes. Je pense qu'il faut, tout comme la musique, faut savoir rester curieux et être toujours, dans une posture d'ouverture. Ça me
semble
important, quoi. Ce qu'on va faire, on va enfin écouter du vrai son de Grief. Yes. Maintenant, on va s'écouter Absence de soi. C'est un titre qui parle de quoi? Tu peux un peu résumer?
C'est un peu le titre le plus, on va dire, d'expérience perso, je pense, de l'EP. C'est un peu un morceau sur le fait de se perdre, en fait, je pense, et de pas trouver de sens justement dans toutes ces choses dans lesquelles on essaye de mettre des efforts au quotidien ou dans d'autres milieux, et du coup de la léthargie, en fait, que ça peut donner, quoi, et de nous mener à plus rien faire du tout. Et ça parle un peu du fait d'essayer, même si c'est pas toujours évident, Et du coup, de prendre soin de soi et d'essayer de dépasser ce truc-là, de léthargie et de faire des choses ensemble, quoi, je pense.
Ok, bah c'est une belle proposition.
Merci.
Deuxième son aussi par rapport à une colère, je dirais plus un petit peu plus froide en fait, plus un peu moins démonstrative et un peu plus lâche. Voilà, je sais pas, on écoute ça, vous me dites ce que vous en pensez juste après.
Je vais chercher un chariot. Oh, il est à moi le chariot là, hein.
Pardon ?
Le chariot, je viens de le sortir pour mes bailliages.
Mais vous fâchez pas, t'as pas marqué dessus qui est à vous le chariot.
Enfin, j'ouvre le coffre et il me pique mon chariot. C'est pas lui qui est allé le chercher, merde.
Mais je vois un chariot vide sur le trottoir, je le prends. Si vous voulez le garder, fallait pas le lâcher.
Mais je l'ai pas lâché, j'ouvrais mon coffre pour sortir mes valises.
Bon, ben, laissez-lui son chariot, allez, venez. Non mais permettez, c'est monsieur Magret, je vois pas pourquoi je me laisserais faire.
Enfin quoi, merde, je fais des kilomètres pour trouver un chariot et cet abruti me le fauche.
Non mais on n'a pas besoin d'un chariot pour deux valises, allez, venez, venez. Il m'a traité d'abruti. C'est une affaire entre lui et moi, je vous demande de ne pas intervenir. Vous m'avez traité d'abruti ?
Oui ?
Je pratique les arts martiaux, judo, aïkido, karaté. La première chose qu'on nous apprend, c'est le contrôle. Un type me traite d'abruti, je ne cogne pas, je le regarde et je m'en vais.
Eh ben tire-toi alors.
Vous avez de la chance. Allez, prends les chariots et filez. Vous avez de la chance.
Gros connard.
Vous avez de la chance. Je suis arrivé à contrôle total. En route.
Pardonnez-moi cette démonstration de force, mais j'ai horreur qu'on marche sur les pieds.
Bon, c'est très bête, hein. C'est... c'est l'idée de, entre toi, la prétention, ce que tu vas faire, arriver à faire, ce que tu peux fantasmer par rapport à la violence, tu vois, la colère qui peut surgir, tu parlais de la haine et tout ça, et puis finalement être un peu muet face à une certaine réalité, un peu, peut-être, un peu moins de courage, tu vois, il y a aussi, donc, je sais pas si vous avez des voilà, des, quelque chose à dire, sur, rebondir sur ce qu'on vient d'entendre, sur le côté... d'avoir envie et de pas pouvoir faire par rapport à la colère.
Ouais, bah là dans cette scène c'est surtout un truc un peu absurde de l'escalade en fait qui part de rien et d'un truc complètement futile quoi et ouais du truc de démonstration de force de montrer qu'il y a la plus grande gueule et qu'il se laisse pas marcher sur les pieds mais dans un contexte un peu toxique quoi je pense.
Et puis au final le chariot c'est juste un prétexte à une colère qui est déjà là en fait j'ai l'impression, c'est-à-dire que en fait, le type est déjà vénère de base et du coup, en fait, il saute juste sur la moindre occasion pour s'énerver et là, il doit se dire peut-être à ce moment-là, ah mais c'est l'occasion d'ouvrir ma gueule pour rien en fait et du coup, c'est ce qu'il fait et du coup, ça donne en fait une scène un peu absurde parce que en fait, il se rend compte du bourbier dans lequel il s'enfonce en même temps de s'y enfoncer et du coup, ça démontre. Ça démontre en fait l'absurdité de sa colère en fait sur le moment quoi.
Ouais, puis qu'effectivement en fait on est tous en colère comme tu dis en fait et on monte nos colères les uns et une contre les autres en fait ou les diriger vers peut-être un ennemi plus fort en fait.
Ouais.
Et qu'on monte les pauvres contre les pauvres en fait. Il vaut mieux que les pauvres en fait. Effectivement, s'embrouillent entre eux que de se détourner contre le véritable enjeu qui est le château, quoi.
Carrément. Puis ça fait du spectacle pour ceux qui sont dans le château aussi.
ouais, qui regardent du haut. Ça fait du divertissement. On verra ça un petit peu plus tard. Et en parlant de divertissement, troisième forme de colère qui est un peu plus démonstrative, celle-là. C'est parti. Bon, ça se résume un peu toujours à ça, en fait. Ouais, ça vous est déjà arrivé en mode fight, comme ça, un truc, un excès de colère terrible qui monte et...
Ouais, non.
Ouais, non,
pas du tout. Franchement, non. C'est pas le genre de... C'est le genre de truc, justement, dont moi, personnellement, je préfère m'éloigner le plus possible parce que ça apporte rien de bon et de constructif, justement.
Ouais, carrément. We'll be right back.
Voilà, bon, mais on sait à quoi ressemble la colère de Grief maintenant. Donc on va revenir un petit peu au début, on en a un petit peu parlé en antenne d'ailleurs. Je voulais savoir si vous avez amené à faire un groupe de punk. J'ai l'impression que ça a commencé un peu comme une bande de potes qui découvrent un peu par hasard et puis qui grandit en fait à travers ça en expérimentant aussi et puis en construisant vous-même votre propre voix quoi. Ouais. Mais au tout début c'est quoi, vous êtes des potes et pourquoi vous faites ça et pas une équipe de foot
Bah Quentin et moi on est cousins en fait.
Ok, assez.
Et ouais, du coup bah on se connaît depuis qu'on est tout petit. Et on avait déjà tous les deux eu des expériences de groupe au collège, etc. Dans des styles complètement différents, mais ouais, du coup, on s'est toujours côtoyé en fait sous ce prisme musical, et parce qu'on échangeait, on s'est changé des trucs qu'on écoutait quand on était petit, ado, etc. Et je sais pas trop, je pense que ça s'est fait assez instinctivement de.
Carrément.
Je crois qu'on avait tous les deux arrêté nos groupes qu'on avait au collège, lycée, et on s'est dit pourquoi on ferait pas quelque chose ensemble avec un autre ami.
Puis on était vachement, je pense, en quête aussi d'identité musicale à ce moment-là.
Ouais, trouver des nouveaux trucs, je pense.
Ouais. Et c'est vrai que, enfin, j'ai l'impression que justement un peu, toute cette scène-là, ça nous a ouvert aussi des possibilités musicales qu'on connaissait pas, c'est-à-dire que en fait on va retrouver tellement d'influences différentes, genre que ça soit des trucs qui vont être plus rock 90, plus punk parfois, plus enfin il y a vraiment tout et c'est super permissif en fait, et je pense que c'est le truc qui nous a pas mal accroché quoi. Et puis le fait, je pense qu'il y ait un côté assez qui fasse passer les émotions avant tout en fait. Enfin, je pense que tous les deux on venait peut-être d'une musique qui était plus démonstrative en fait.
Ouais, à fond.
Et du coup ça nous a permis de reconnecter aussi avec l'essentiel de ce qu'est la musique et l'art en fait en général, c'est quelle émotion ça te procure et pourquoi c'est celle-là et est-ce que tu as envie de la partager ou pas en fait.
C'est vrai que votre style en soi est assez indéfinissable, je trouve, malgré tout. Mais il persiste ce sentiment en fait diffus et peut-être inexplicable. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. En tout cas, moi, ce que j'ai ressenti au tout début, c'était le côté do it yourself de manière très pragmatique, avec faire les patchs, enfin rapidement, ce souci en fait peut-être d'identifier quelque chose, d'identifier le projet, mais ce qui se diffusait aussi c'était le do it yourself moi qui me touche plus évidemment plus politique en fait, là tu l'as ramené aux émotions et donc peut-être on vit de faire la scène émo, bon, en tout cas une espèce de recherche dans la musique mais comme prétexte, c'est-à-dire l'important c'est qu'à travers la musique t'explores qui tu es toi en fait, jusqu'où tu peux aller à la fois dans les textes, dans ce que tu vis collectivement dans le cadre du groupe et c'est important cet itinéraire personnel qui t'amène aussi à grandir
carrément. Moi j'ai, pour le coup ce côté là j'ai plus l'impression qu'il soit venu à moi naturellement en fait. Je pense que c'est à force de faire des concerts et de jouer dans des lieux autogérés, dans des lieux où il y a des actions politiques qui se passent, où il y a des réus, il y a des choses comme ça, enfin dans des lieux autres que des salles de concert où on en discutait récemment en fait, j'ai l'impression que ça nous a appris aussi à être vecteur de rencontre, c'est-à-dire qu'on n'est pas un groupe qui vient fournir une prestation dans un lieu, on est un prétexte aussi pour que les gens puissent se rencontrer, puissent discuter, puissent élargir leurs horizons et en fait on est vraiment un outil en fait de ce fonctionnement là et c'est super important je trouve de le reconnaître et enfin je trouve que ça permet de définir sa place aussi dans ce monde là et dans ce milieu là aussi, je trouve que c'est super important et voilà, et je pense que on est un médium en fait comme tous les groupes en fait qui font ce choix là le sont, je pense, et c'est super important.
Après vous le faites avec peut-être plus de lucidité et de conscience, alors justement ça m'amène à terrain, voilà, peut-être un peu plus marécageux, j'ai envie de dire. Je sais que vous aimez bien, enfin en tout cas, Ludo, t'aimes bien Portrait of Guilt.
Ouais.
Carrément. là, ils font une grosse tournée européenne, et tu vois, là, j'ai vu, ils jouent à la fois au Hellfest, c'est ça le Hellfest,
ouais.
Et à la fois au Fluff.
Ouais.
Et perso, je trouve que ça brouille vachement les lignes en fait.
Ouais, je suis d'accord.
Ah bah tant mieux, c'est cool. Mmh,
bah ouais.
Je voulais quand même votre position, si vous, à travers votre groupe, évidemment, si vous avez déjà réfléchi à ça, pourquoi pas quoi. Mais juste sur, tu vois, la lisibilité qu'on peut avoir d'un groupe quoi.
Ouais.
Moi, je comprends pas qu'on puisse faire les deux, par exemple.
Ouais, totalement d'accord.
Mais parce que, ouais, c'est là où tu mets les limites entre, je pense, justement, le côté business du truc. C'est-à-dire que je pense que c'est pas Portrayal of Guild qui vont se booker eux-mêmes au Hellfest, mais ils passent par des tourneurs.
Ouais,
et du coup, en fait, ça devient une industrie. Et dans ce cas-là, en fait, tu reproduis un schéma de société que tu dénonces et qui te correspond pas. Et c'est vrai que ça crée une certaine... comment dire, ça crée une certaine ambivalence en fait dans ce que les groupes cherchent à représenter. Et c'est aussi, je pense, quelque part, ça fait aussi état de fait de ce qui est devenu une partie de la scène en fait, de cette scène-là aussi, où, dans le sens, en fait, ça devient un moyen de capitaliser sur quelque chose comme n'importe quel autre, comme n'importe quel autre produit, entre guillemets. Ouais, ouais. Et du coup. Enfin, nous, je pense que personnellement, on se positionne sur le fait que, enfin, en tout cas, je parle en mon nom, c'est je pense que on a besoin de se sentir ok avec le fait de faire certains choix en fait politiques, et notamment jouer au Hellfest en fait, c'est un choix politique. Mmh. Et quelque part correspond pas forcément à nos valeurs. Et du coup, c'est pas le genre d'endroit où on va aller, où on va chercher à évoluer quoi, parce que en fait, c'est juste un endroit où la musique est un prétexte pour consommer en fait, de la bière, consommer tout un tas de trucs, et en fait, c'est plus vraiment, enfin, ce genre de lieu et ce genre de fonctionnement ne sont plus vraiment des espaces d'expression artistique, mais des espaces de consommation en fait. Et du coup, bah, c'est pas forcément quelque chose qui nous attire quoi.
Et est-ce que vous pensez, par exemple, au début de votre trajectoire, vous auriez pu ambitionner, par exemple, de jouer sur ce genre de scène, et c'est le fait de rencontrer des gens, par exemple, de vous construire aussi politiquement, qui fait que vous êtes éloigné de ça et que vous décidez de faire un pas de côté.
Je suis pas sûr qu'au début de Griff on ait pensé à ce genre d'éventualité, parce que déjà on se projetait pas aussi loin, je pense. aussi parce que peut-être les groupes qu'on a eu avant, en étant au lycée, collège et tout, on était plus dans cette dynamique là,
ouais,
justement,
carrément.
Déjà de vouloir faire des tremplins, vouloir je sais pas, faire des grosses scènes, faire à mesure, etc. Et là, peut-être, du coup, on s'est retrouvé dans une autre dynamique, je pense, qui était différente, et on voulait, que ce soit musicalement ou même dans le fonctionnement du groupe, je pense, faire des choses différentes de ce qu'on avait voulu faire par le passé. Après, on se l'est posé quand même assez rapidement. Il y a eu une discussion, par exemple, d'un ancien membre du groupe qui voulait faire un tremplin pour le Hellfest, et où nous, on n'était pas OK avec ça, parce que... enfin. Rien que les conditions pour participer au truc, quoi, on les trouvait.
C'est quoi, ça te permet de jouer après?
C'était un tremplin où tu venais jouer sur un parking,
sur
je crois,
parking
du Auchan.
Leclerc.
Ou du Leclerc, ouais. Et t'étais même pas défrayé, quoi, ou quoi. T'avais un concours sur internet où les gens votaient pour toi pour savoir
qui
venait jouer sur place. Et ensuite, fallait venir jouer par tes propres moyens. T'étais pas défrayé ni rien. Et si tu gagnais le tremplin, tu pouvais jouer sur une des scènes du festival, quoi.
Ça fait un peu rêve américain, entre guillemets, genre on te fait croire que tout est possible et que en fait tout est une question de visibilité et de, alors que enfin en soi ça n'a plus rien à voir avec la musique. Et ça devient juste des techniques de communication et de choses comme ça.
Ouais, et puis ça met en place une logique de compétitivité
les
groupes qui est dégueulasse,
carrément.
C'est pas comme ça, je pense, que tu construis justement un environnement et une une scène entre guillemets où t'as des rapports sains en fait entre les personnes qui la font, même si après il y a plein d'autres paramètres, mais déjà sur ce niveau là, c'est pas ok, je pense.
Ouais, des rapports sains et solidaires, hein. L'idée, ouais, malgré c'est tout, c'est l'entraide et c'est pas la compétition, parce que c'est si ça. Ça. Plein dit il y a enfin un gagnant comme un gagnant,
bah ouais, c'est un concours quoi, entre guillemets. Ouais. On appelle ça tremplin, mais c'est enfin pour moi, c'est un concours,
c'est un concours, ouais, carrément.
Donc cette notion de do it yourself, petit à petit, elle s'est transformée, je dirais, d'un aspect musical en quelque chose de plus idéologique, peut-être.
Ouais. Ouais, au fur et à mesure, ouais, des groupes qu'on a découverts. Parce que c'est un style qu'on a découvert assez tard, en fait. Et après, même tous les groupes plus politisés, on les a découverts, du coup, après avoir commencé avec Grief, encore au fur et à mesure. Et toute la scène française, par exemple, de Screamo, comme Amanda Woodward, Chavira et tout, c'est des trucs qu'on a découvert assez sur le tard, quoi.
Ouais.
Et c'est, moi, personnellement, c'est des trucs comme ça qui m'ont nourri, c'est le fait d'aller au Fluff aussi, de voir ce genre d'initiative liée à la musique, en fait. Et qu'en fait, ces choses-là n'avaient pas besoin d'être séparées, qu'elles pouvaient être liées, et justement, que la musique pouvait être un médium, comme disait Quentin tout à l'heure, pour se diffuser ces idées-là et s'en servir, quoi.
C'est vrai que grief, ça veut dire se plaindre et protester. Alors forcément, l'essence du punk ne peut pas se limiter juste à l'écho, en fait. Ça doit être aussi une impulsion, quoi, pour construire.
Ouais.
D'ailleurs, l'idée de construction vient souvent dans tes textes, Ludo. Ça revient assez régulièrement, en fait. La construction de la ville, quelque part, et aussi
de soi, physique, quoi. Ou immatériel, ouais. Je pense que c'est un truc assez récurrent parce que c'est un peu, je pense, un truc basique, quoi. Enfin, de construire des trucs, d'en déconstruire, de le faire petit à petit ou de le faire d'un coup. Enfin, il y a plein de. Enfin, c'est des schémas, du coup, qui viennent se percuter et qui ont des. Je sais pas trop comment dire, mais. Qui ont un impact sur plein d'aspects quotidiens, que ce soit comment on construit nos villes, comment on se construit individuellement, comment on construit un lieu où on habite dedans.
Ouais, t'as pas peur des ruines et t'es capable de bâtir aussi, en fait.
Bah, c'est ce qu'il faut se dire, je pense.
Alors, c'est quoi les outils, en fait, que vous utilisez pour construire cette cité idéale, qu'elle soit physique ou vous-même? C'est, je sais pas, la littérature, l'expérience amoureuse, la musique. Quels sont les outils?
Bah, je pense que c'est un peu tout ça. Et puis, c'est aussi l'échange, en fait. C'est-à-dire que... je trouve que ça permet, en fait, de pas se cantonner à la place qu'on a envie de nous donner. C'est-à-dire que, je sais pas, tu t'es pas obligé de faire un certain nombre d'études pour faire tel ou tel, par exemple je pense à faire du son, apprendre à mixer ou masteriser ces trucs. En fait, tu peux l'apprendre juste en communiquant avec les autres, et du coup ça te permet justement de te construire toi-même en échangeant des compétences. Et du coup, je pense que c'est super important aujourd'hui d'arriver à se sortir de sa petite case, en fait. Et quelque part, je trouve que en fait, tout cet univers-là te permet justement de mutualiser, en fait, de mutualiser les savoirs, de mutualiser les compétences, et justement de grandir, en fait, et de se développer et de se construire, tout simplement.
Donc faut oui au collectif. Il faut déconstruire les tremplins, en fait.
C'est ça.
Casser les concours.
Cassons les tremplins, quoi. Et ça vous dit, on peut s'écouter un peu de musique? Je vous ai demandé de faire une playlist.
Ouais, carrément.
Et écoutez, qu'est-ce qui vous ferait plaisir d'écouter maintenant et pourquoi, juste avant d'enchaîner sur le bâtiment et la construction?
Je sais pas laquelle on peut mettre de suite, là. On a écouté déjà du Screamo avec notre morceau. Peut-être on peut mettre un truc. Mass Hystery, c'est pour commencer, c'est bien. C'est du punk suédois. C'est une dédicace pour David. C'est son anniversaire demain.
Bon anniversaire, David, alors. Hystérie de Suède. Ouais, je trouve que l'idée de déconstruction, c'est un truc en fait hyper galvaudé un peu en ce moment, quoi. C'est même utilisé par les médias mainstream, quoi. Ouais. Et moi, je peux me dire, je suis déconstruit en fait, tu vois. Ça me semble un peu une auto, tu vois, et justification et satisfaction de pouvoir dire ça. Mmh. Est-ce que vraiment je le suis? Je sais pas. Je pense que c'est un truc que.
Bah, je pense qu'on peut pas se proclamer, s'auto-proclamer déconstruit.
C'est un peu compliqué.
C'est pas le genre de truc.
Ouais, c'est pas le genre de remarque qu'on relève.
Mais... c'est pas la médaille. Après, enfin, ouais. Je pense que c'est un travail qui se fait continuellement en fait tout au long de ta vie.
C'était sans même question.
Carrément.
T'as pas de niveau ultime de déconstruction.
t'as pas de médaille de déconstruction.
Ah, parce que même, je pense, si t'as des notions.
T'as pas des super pouvoirs de.
Ouais, c'est pas un
dernier niveau.
Je pense même si t'as des notions, enfin, tu fais toujours des erreurs et je pense que le plus important justement c'est de s'en rendre compte et pas se dire ah c'est bon je suis déconstruit, je peux faire ce que je veux. Enfin, et surtout écouter en fait les gens qui sont en minorité ou quoi, quand ils nous disent des choses, bah, de les écouter, d'apprendre justement de ces erreurs. Et je pense que c'est comme ça qu'on se déconstruit aussi, c'est pas juste en se faisant son auto-évaluation.
Ouais, c'est super important de sortir de son biais de confirmation, en fait.
Ouais, voilà.
Et voilà.
Moi, ça me fait penser un petit peu au texte et à la validation des textes. Je sais pas si tu fais gaffe à ça. Moi, je vous ai vu quelques fois en concert. Tu parles pas énormément, toi, entre les morceaux, par exemple.
Non, pas trop.
Moi, je t'ai déjà vu t'exprimer sur la gentrification, justement, quoi. Et je voulais savoir juste si ce thème-là, tu te permets par exemple de l'exploiter comme d'autres thèmes de tes textes, parce que t'es concerné par exemple.
D'avoir l'expérience du vécu, ouais.
Par exemple.
Bah, je pense, ouais, ça joue pas mal. Enfin, je pense que après ce thème de la gentrification, par exemple, c'est un truc qui touche un peu toutes les personnes qui habitent en ville. Après, bah, c'est plus ou moins en fonction des quartiers et tout, mais. Mais ouais, je pense que c'est un truc qui est nécessaire, histoire de pas parler à la place d'autres personnes, ou alors de le faire, enfin, si on en parle, mais que ça ne concerne pas forcément, peut-être de prendre un point de vue objectif. Enfin, je sais pas trop, après, j'ai pas vraiment de bonne réponse, parce que moi-même, je me pose souvent la question de est-ce que je suis légitime de parler de ça.
Mais dans le cadre du texte, par exemple, ou en général, dans la vie, quoi.
Bah, dans le cadre du texte, principalement, ouais. Parce que quand je me mets à écrire, je me dis, bah, je vais écrire cette chose-là, du coup, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on en ressort. Et après, oui, dans la vie de tous les jours aussi, parce que. Enfin, il faut être conscient des personnes qui nous entourent, de l'environnement dans lequel on se place, etc., je pense.
Et est-ce que c'est pas un échec de la scène qui regroupe le même type de profil, en fait?
Ah, ben, clairement.
Clairement, c'est un échec, ouais. En fait, pour le coup. Moi, je me suis déjà fait cette réflexion-là. C'est-à-dire que on aura beau parler de choses ou on aura beau partager des valeurs, en fait, on les partage principalement entre nous. Et du coup, ça reste quand même un entre-soi. Et je trouve que, quelque part, en fait, l'échange peut... Enfin, l'échange en devient limité, en fait, dans le sens où... on va enfin, on va se retrouver en fait dans un truc un peu cloisonné et du coup on va pas forcément aller chercher les échos, enfin d'autres échos en fait, et du coup je trouve qu'il y a des limites, enfin ça pose certaines limites en fait, dans le sens où tu sais que tu vas quand tu vas aller discuter avec dans un concert ou un truc comme ça, tu vas avoir 99% de chances que la personne soit d'accord avec toi en fait. Et c'est une bonne chose, hein. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, mais je dis que quelque part, du coup, je pense à l'accessibilité à la culture par exemple, où en fait on va se retrouver à proposer des concerts à prix libre ou des choses comme ça, et en fait on va se rendre compte que malgré tout ça reste relativement le même public en fait, et c'est pas forcément le public qui aurait le plus besoin de concerts à prix libre en fait qui va être concerné, et c'est là où du coup moi je trouve que ça pose certaines limites quoi, dans le sens où on va se retrouver à devoir à proposer des choses en fait qui pourraient en fait concerner beaucoup plus de personnes, parce que l'accessibilité à la culture par exemple c'est quelque chose qui nous concerne tous, et en fait savoir que quelque part y a des gens qui ont pas conscience que ce genre de possibilités existent, et que ils vont payer des places de concert super chères, ou ils vont juste pas sortir en fait, en général ils vont se priver de sortir ou ce genre de choses, moi je trouve que ça me pose certaines questions où je me dis mais en fait comment est-ce que on pourrait avoir un peu plus d'inclusivité en fait, en termes en tous les termes, c'est-à-dire que ça soit les milieux sociaux, que ça soit les différences de genre, que ça soit les différences d'origine en fait, peu importe. Et c'est vrai que parfois cette scène là en fait démontre assez vite ses limites aussi.
Ouais, c'est un peu un miroir, t'as l'impression de parler à toi-même parfois.
C'est ça, exactement.
Mais est-ce que c'est pas tout simplement la musique aussi, puisque le vecteur c'est la musique, le punk, le screamo, c'est pas la bande son des quartiers populaires en fait.
C'est clair.
Donc est-ce que je trouve ça intéressant comme débat, parce qu'on est sur l'idée, genre on détient la vérité, on va amener la vérité, tu vois.
Ouais, il faut faire gaffe.
Oui, carrément.
De comment on se positionne justement dans ces postures-là. Fin. Et justement, il y a ce truc qui est grave important, c'est de laisser de la place le plus possible en fait, quand on le peut, et pas écraser d'autres personnes en fait, parce que je pense qu'il y a des personnes qui se reconnaissent pas en fait dans ce qu'on fait, et c'est normal.
Ouais.
Parce que c'est un milieu vachement restreint, on est entre mecs blancs et c'est sûr que ça fait pas envie au premier abord forcément quand t'es pas à l'aise avec tous ces trucs quoi, et je pense que de laisser de la place quand on en a l'occasion, c'est un des trucs les plus primordiaux je pense.
C'est vrai que Quentin parlait, par exemple, quand tu étais plus jeune, toi, tes parents t'amenaient au pavillon sauvage.
Ouais.
Donc déjà, il y a tu vois, un truc de transmission. Quoi. Donc si les parents ils t'amènent à la découverte d'un univers, si chez toi, tu écoutes de la funk, tu sais rien, toi, du hip-hop, forcément, tu vas pas spontanément débouler dans un concert de screamo.
Non,
tu vois.
Carrément pas. Mais après, je pense que... Il y a aussi cette idée que justement, en fait, c'est un mode de fonctionnement. C'est-à-dire, par exemple, je reparlais du prix libre tout à l'heure parce que je trouve que c'est une notion super importante, en fait. Et moi, personnellement, je trouve ça justement dommage que la majorité des concerts, justement, de cette scène-là... que en fait il y ait beaucoup de concerts de cette scène-là qui soient à prix libre, et justement quand tu vas écouter du rap, quand tu vas écouter de la funk, ça va être d'autres espaces, d'autres lieux, et c'est pas une mauvaise chose, mais c'est vrai que en termes d'accessibilité ça pose certaines questions en fait, et du coup moi je pense que le plus intéressant à retenir dans la danse, c'est justement pas la musique mais plus la manière dont c'est fait. Et justement le fait que que voilà, genre ça propose aussi un modèle différent de participation à, de participation en fait à la vie culturelle et à la vie de la culture, quoi. Et que en fait ça quelque part il y a ça offre ça offre d'autres possibilités et du coup je pense que quelque part il y a du bon à prendre là-dedans et il faut pas justement se cantonner à cet entre-soi. Par exemple, moi je trouve ça super dommage que tu retrouves pas des festivals avec par exemple enfin un prix libre avec beaucoup plus de diversité dans la programmation, tu vois. Et en fait ça pourrait être super, genre que des amateurs de techno rencontrent des amateurs de screamo, que tu puisses voir du rap, de la funk, et en fait que ça reste quand même dans cet esprit justement DIY et prix libre en fait et accessible et en fait je trouve que du coup c'est presque comme si on se réservait un privilège en fait, on se réservait un privilège qui n'a pas lieu d'être conservé en fait, c'est-à-dire que c'est super les concerts à prix libre, mais en fait il faudrait qu'il y en ait plus et dans plus de styles différents. Et c'est vrai que du coup moi j'ai toujours cette espèce d'impression de parfois de quelque part d'égoïsme en fait dans ce fonctionnement là, c'est à dire que c'est une chance en fait et elle n'est pas donnée à tout le monde, et du coup tu peux pas te prétendre porteur de valeur à partir du moment où tu ne les rattaches qu'à ce qui te concerne en fait. Et voilà. Et c'est juste que du coup ça serait super que les choses puissent un peu plus s'élargir en fait à ce niveau-là.
Nos privilèges nous permettront de réussir avec des milliards de guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que quand tu galères dès le début en fait, ce rapport à l'argent fait que il est toujours présent.
Ouais.
Enfin, tu vois. Donc réussir par le biais de la musique, pourquoi pas, quoi. Enfin, c'est ça. Arriver à déconstruire ça, c'est arriver à une égalité des chances, en fait, pour tous, pour tout le monde. Et c'est avant même d'essayer, tu vois, de ramener les gens dans les concerts screamo.
Ouais,
il faut juste se dire que la thune, la thune, s'il y en a beaucoup, faut la partager, etc. Mais ça, tu peux tenir ce discours parce que t'en as un peu, quoi.
Ouais, c'est sûr.
Et par contre, le truc que tu disais qui est bien aussi, c'est que moi, j'ai fait pas mal de concerts, Peura, avec des groupes punk, screamo, c'est dans des squats. Et là, effectivement, ça amène aussi une population. Alors déjà dans des lieux un peu différents, des problèmes que tu découvres pas, mais en tout cas des problèmes de fonctionnement liés, genre au concert, au prix libre, hyper intéressantes, quoi.
Ouais.
Ça, oui, effectivement. Et puis voilà, des espaces aussi, mais de paroles incroyables, quoi. Donc oui, il faut des concerts do it yourself, des concerts dans des squats, c'est super important, et mélanger les styles, quoi. Enfin, je trouve, quoi. Dans un de tes titres, tu parles de combats en vain et des batailles sans fin. C'est pas super optimiste. Tu crois qu'il y a des... Là, par exemple, ce qu'on est en train de dire, est-ce que tu penses que c'est une bataille perdue? Est-ce que c'est un combat vain, par exemple?
C'est compliqué de savoir, je pense. le fait d'en parler de cette manière, c'est plus une manière, je pense, de pas perdre d'objectif, enfin de pas se terrer en fait, et de tout lâcher, mais ça veut pas dire qu'il faut non plus se dire que tout va rouler comme il faut, et enfin qu'il y a encore beaucoup de taf, quoi. Et je pense que c'est plus de ce côté là quoi, c'est pas que tout est perdu d'avance, c'est juste que ça fait flipper et que c'est épuisant de ouf. Mais ouais, c'est ça, il faut juste essayer de continuer comme on peut, quoi.
Genre le réchauffement climatique, par exemple, c'est perdu d'avance ou...
Ouais, c'est des trucs en fait où limite c'est terrible de dire ça en fait, mais c'est un constat où limite t'as plus envie d'y penser, enfin de trop y penser, mais parce que t'en es conscient, mais c'est des trucs où si tu mets à réfléchir qu'à la fatalité de ces trucs là tu fais plus rien peut-être, et ça te tétanise aussi.
Carrément.
Du coup, faut arriver à trouver un entre-deux, je pense, entre Ou est-ce que tu arrives à trouver ta zone de confort, entre guillemets, je pense, pour arriver encore à faire des choses au milieu de tout ce brouillard, quoi.
Et puis, je pense que quelque part...
J'aime des brouillards.
Je pense aussi que quelque part, transformer son quotidien à soi, ça peut aussi, dans une moindre mesure, transformer le quotidien des autres. Et du coup, c'est là où ça devient intéressant. C'est-à-dire que c'est pas, je pense que la question, elle n'est pas de savoir si c'est perdu d'avance ou si c'est... Enfin, pour moi, en tout cas, la question, elle se situe pas là. Elle se situe plus dans pourquoi je le fais et est-ce que ça peut avoir un impact, ne serait-ce que minime, en fait. Et même si c'est perdu d'avance, en fait, ça permet de se dire que au moins, on fait l'effort de... On fait l'effort de ne pas rester dans une certaine forme de comment dire de renfermement sur soi et de se dire ah mais c'est foutu et quelque part ouais c'est juste transformer déjà un minimum son quotidien, ses habitudes, ben ça peut aussi motiver certaines autres personnes à le faire et c'est la théorie de l'écoulement de la petite pierre en fait qui fait bouger les gros, qui en fait bouger les grosses à force de tomber en fait. Et moi je crois vraiment en ça, c'est-à-dire qu'on peut pas lutter seul contre ben, le grand capital, on peut pas lutter seul contre le réchauffement climatique, mais par contre juste en ne lâchant rien de son côté, enfin d'un point de vue perso en fait, ça permet de donner de la force aux autres aussi en fait et de surmonter tout ça, et je pense que c'est le truc le plus important en fait. Et puis après pour ce qui est vraiment en fait de la question de est-ce que ça a un véritable sens sur un point de vue global, ben en fait on n'est pas devin donc on peut pas y répondre, et ça il faut accepter ça aussi, c'est-à-dire que en fait les choses peuvent, moi j'ai la certitude que les choses peuvent encore changer en bien, et justement en fait ça serait complètement négatif de rester dans une forme de rejet de tout ça et de se dire mais en fait foutu pour foutu quoi. Et personnellement en fait on n'en sait rien, mais c'est sûr que la seule chose dont on est sûr c'est que si on fait rien c'est ce qui va arriver,
ça bougera pas.
Du coup en fait la seule solution c'est de se bouger au quotidien petit à petit et d'essayer de faire attention aux choses qui nous entourent en fait, tout simplement pour aller de l'avant soi-même et pour aider les autres aussi à aller de l'avant quelque part, et je trouve que c'est pour que les autres nous aident à aller de l'avant aussi, et je trouve que c'est super important en fait.
C'est vrai. Donc une petite pierre plus une petite pierre plus une petite pierre, ça fait des murs en fait. je suis dans le bâtiment, t'as vu. et je me suis aperçu qu'on associait assez facilement, mais on va voir si ça se vérifie ou pas, les groupes, les individus au mur. Alors je m'explique. Il y a des groupes qui sont vachement liés à leur ville. Alors on va voir si ça fonctionne. Je vous fais écouter rapidement du son. Alors il faut me trouver le nom du groupe évidemment, mais la ville. Ah, je pensais que ça allait plus vite quoi.
Ouais.
Ah merde.
Il y a une voix que je reconnais.
Ouais. Mais
je sais pas, j'ai pas le nom du groupe.
Vous l'avez pas?
C'est pas Rites of Spring? Non.
C'est des groupes français.
Je sais pas du tout alors.
Non.
Non.
Bah, mais la loose ou quoi, c'est vous?
Ah ouais, la loose.
Oh, la loose totale.
Ouais,
merde, ben c'était Aghast.
Ah ok. Okay.
De Tarbes.
De Tarbes, oui.
Ouais.
J'ai pas assez écouté. J'avoue. Ouais.
Ah pétard, la loose totale. Bon ben je continue.
Vas-y.
Je pense que ça va être
catastrophique.
Il y a moyen.
Ah ouais.
Ça part très mal.
Ah ouais, chaud. Bon ben alors deuxième titre.
Alors là, maintenant, c'est plus facile. Le nom de la ville est dans le titre.
Okay.
C'est pour vous aider, quoi. Mais je pense, je sais pas si ça va vous aider, en fait. Alors, on va voir. Deuxième titre. Mais c'était trop facile. Oh merde.
Vous êtes en colossal.
Ça m'a fini.
Ouais, bien, bravo. Voilà, bravo, ouf. Tu sauves le... Bien joué. Ensuite, on continue. Pareil, c'est... Normalement, c'est aussi facile, quoi. C'est trop facile, quoi. Nom de groupe, ville.
C'est Saint-Brome.
Ouais.
Brest.
Brest. Ouais, voilà, bravo.
Bisous aux copains et aux copines de Brest.
Allez, on continue. Là, par contre, tu trouves, là, c'est pour moi. Je me suis fait une spéciale dédicace.
Du côté de la balance, pas du côté de ce qui plaît. Tout dans la baraque au plaît, rien dans l'apparence. 9, 2, numéro 1 sur la main, sur la plus grosse. T'inquiète, frérot, on va les hacker.
Non, j'allais dire, on dirait Rof,
mais ouais, mais c'est pas bien.
On peut renoir foutu. 9,
4. Bon, le 9-2, vous trouverez pas, mais 9-4. Bon, 9-4, je vous laisse écouter Vitry là.
T'entends les cylindrés qui zigzag, Vitry, c'est un tarabag à ton avis. Pourquoi ils veulent brûler Balzac? Ça vient du sud, c'est sale. Chaque phrase, c'est un verre de schlap.
C'était pour le 92, c'était Salif, et le 94, c'était Rimka.
Mmh.
Alors, il me faut le nom du groupe, leur ville, et le titre de la chanson qui est aussi un nom de ville.
C'est Chaviré.
Ouais, bien joué. Son de quelle ville, Chaviré?
De Nantes.
Son de Nantes.
Ouais, bien joué. Et le titre s'appelle comment?
Pour ça, c'est lequel? Ouais, non, j'ai
la grosse coupe de mémoire. C'était Barcelone.
Ah oui, Barcelone.
Donc là, pareil, le nom, bah, les trois, quoi. C'est aussi le titre, c'est aussi le nom d'une ville.
Ok.
Je vais baisser parce qu'il dit non. La ville tout de suite. Il l'a dit là.
Ça j'ai pas
dit. Pareil.
Vous l'avez pas?
Non.
Faux départ.
Ah ok, j'ai jamais trop écouté.
Ah ok,
ouais.
De Lyon et puis le titre c'était ouais. Lisbonne. Bon, un dernier pour la route, vous êtes un peu nul quand même.
Ouais, on est mauvais là.
Sur un mauvais score.
Grave, je suis super déçu.
Désolé. En fait. Bon, d'accord.
Il y a une petite subtilité.
Dans le nom du groupe, c'est le nom d'un lieu.
Ouais, c'est... Dans une ville, quoi. On parlait de ville.
J'ai peur de dire une connerie. J'allais dire Chestnut Road.
Ouais, bien Toulouse. Joué, bravo. Ouais. Bien joué, Chestnut Road. Bravo, bravo. Et Chestnut Road, pourquoi j'ai choisi Chestnut Road?
Parce que dans... joué il n'y a pas longtemps.
Alors déjà, ouais. Bravo, respect. Et parce que dans votre playlist...
Il y avait un groupe Street.
Voilà.
Mais The Xerxes.
Exact. Alors c'est quoi ce groupe qu'on va écouter?
Moi c'est un peu un de mes groupes préférés qui est resté de l'adolescence.
Okay.
C'est un groupe américain en fait qui ont commencé à faire du post-hardcore très générique à la Touche Amore, un peu en... du sous-Touche Amore. En fait leur dernier album qui est sorti, Collision Blonde il s'appelle, c'est un mélange entre du post-punk et du screamo.
Ouais.
Okay.
Et c'est méga bien emmené en fait, les arrangements sont trop bien. Enfin, et c'est ce morceau, tu peux juste trop danser dessus.
Ouais,
par
c'est vraiment, le c'est riff est incroyable.
C'est quoi le nom du groupe alors?
Xerxes. Xerxes. Je sais plus comment ça se prononce.
Xerxes.
Ouais.
Ok, bon, mais ça vous dit pour Chestnut, comme ça on fait yes. La boucle.
Allez, go.
Allez, go, c'est parti. Let's go! Ouais.
Yes.
Ouais, yo, trop bien. La zone infinie, c'était donc Saint-Étienne. Dans Embrasser les obstacles, t'écris bercé d'illusions, formé à leur façon des loisirs. C'est pour ça que je voulais reparler de ça. Des loisirs offerts pour compenser notre aliénation. Alors, qu'est-ce que c'est que cette idée de loisir offert ? Est-ce que c'est ce qu'on disait un peu sur la musique mainstream, sur...
Ça peut représenter pas mal de choses, mais ce texte qui est pas mal en lien avec la notion de travail aussi, et d'essayer de se dégager de chemin, on va dire, classique, entre guillemets, de travail, d'être enfermé dans le salariat, de pas s'y retrouver, d'être aliéné en fait par tout ça. Et l'idée des loisirs, ça venait d'un texte de Bob Black, qui a écrit un texte qui s'appelle Travailler, moi jamais, et qui parle du coup de son rapport au travail et au fait de pas travailler, du coup que on nous offre des loisirs quand on nous file des vacances, mais qu'au final c'est juste pour retourner au turbin après. Et ce genre de choses, quoi. Je raccourcis énormément, mais... Et du coup, c'est un peu ça, c'est... Et en dehors du cadre du travail, c'est le fait de trouver d'autres alternatives, en fait. On peut s'émanciper, justement, et se retrouver. Et que c'est peut-être des chemins qui sont un peu plus difficiles d'accès, ou qui sont plus durs à mettre en place. Mais du coup, qui sont pas juste une récompense comme ces loisirs qu'on peut nous filer juste pour.
En compensation,
un ouais, peu. Ouais, c'est ça, un peu de l'eau de consolation. Vous avez bien travaillé, tenez, voilà. Je sais pas comment le dire autrement, mais ouais, c'est un peu cette idée-là.
Ouais, okay. L'idée que, en fait, le maître étalon, c'est le travail, quoi. Et que tout ne. Se compare à ça, quoi. C'est-à-dire le loisir, tu te reposes, mais pour mieux aller travailler. En
fait. Ouais, et t'as le droit de te reposer parce que t'as bien travaillé juste ouais. avant. Et parce que, ouais, tu peux pas non plus faire des loisirs si t'as pas d'argent. Et... Enfin, après, il y a plein d'autres questions au niveau de l'accessibilité à tout ça, mais ouais, c'est un peu ça.
Ouais, donc l'idée aussi de contrôle, aussi, peut-être, puisque tu maintiens les gens. De nouveau à leur place, tu les éloignes aussi peut-être de leurs émotions, puisque tu les éloignes de la création, ça peut être ça aussi.
Ouais,
enfin, toi, par rapport à l'industrie, bon,
ouais, un truc de déposséder un peu en fait de ce qui pourrait te. De te déposséder en fait de choses dans lesquelles tu es censé te retrouver justement et être en pleine possession de ces choses-là parce que tu te plais à faire ces choses-là et que qu'elles peuvent te définir en fait et t'aider à te construire. Et il y a aussi y a un bout des paroles qui est entre guillemets dans le.
Exact, ouais, j'ai remarqué.
C'est issu d'un bouquin en fait qui s'appelle Off the Map. C'est deux personnes, deux américaines en fait, qui sont anonymes du coup, mais qui ont écrit ce bouquin en fait. Elles ont fait un tour d'Europe des squats, je sais plus en quelle année c'était. Mais en fait, ce bouquin raconte, c'est un peu leur carnet de bord du voyage. Et du coup, tout ce passage-là sur la marchandisation des rêves, etc., ça vient de là. Et c'est un peu leur constat, parce qu'elles ont entamé ce voyage, elles ont tourné dans plein de squats à Barcelone, en France, à Rennes, elles sont allées en Belgique aussi, et un peu de leur la manière dont elles ont déchanté aussi par rapport à l'idéalisation qu'elles s'étaient faites en fait, des squats européens et tout ça. Mais qu'elles continuent malgré tout, enfin, une sorte de route, quoi, et de voyage. Et du coup, ça vient aussi en lien avec ça, de fait d'emprunter des chemins pas toujours faciles et évidents, quoi. Et que, c'est pas toujours comme ce que t'as fantasmé, quoi, et ce que tu projettes, en fait, sur ce que t'entreprends, quoi.
Ouais, tout. Comme la scène, on disait tout à l'heure, hein, la réalité aussi.
C'est pas un truc sacré, tout rose. Auquel on peut pas toucher en fait, il y a plein de choses à. Il y a encore énormément de choses à faire et à corriger en fait.
Bah oui, puisqu'on travaille avec l'humain et évidemment l'humain est perfectible, donc malheureusement on peut pas faire sans nous, sans ce qu'on est, notre matière première, donc oui, le chemin est peut-être un peu plus long, mais il faut continuer à creuser le sillon, continuer dans les métaphores. tout à fait ringarde. Et t'as fait une école d'art, toi t'es dans une école de musique.
Ouais.
Donc à cet équilibre que je trouve parfois fin entre toi artistique et politique. C'est vrai que je trouve que l'artistique peut aussi tuer le politique, quoi.
Carrément.
Ah oui, totalement.
Et alors, j'aimerais connaître votre position parce que c'est vos études, vous engagez peut-être professionnellement là-dedans, et c'est, ça doit être une espèce de paradoxe peut-être.
Justement, moi, j'ai par rapport à mes études et tout, j'ai fait le choix l'année prochaine, puisque là c'est ma dernière année, de ne pas essayer de vivre de ma musique en fait, parce que justement je me suis, au-delà de l'aspect technique qui était très intéressant en fait, je me suis rendu compte qu'on nous formait aussi à être des artisans d'un système où en fait on ne joue plus pour on ne joue plus par conviction, on joue par obligation alimentaire en fait, et du coup quelque part moi, c'est quelque chose qui me, en tout cas qui me rebute, dans le sens où je pense que il y a plein de jobs autres alimentaires que la musique sur Terre, et du coup je trouve ça compliqué d'avoir un rapport à la musique à l'art, du moins, genre il faut que ça te fasse manger. Je trouve ça très difficile parce que en fait ça te demande de faire énormément de concessions sur plein de choses, et notamment sur le sens, même carrément le sens profond de ce que tu fais en fait, et c'est vrai que moi personnellement c'est ces trois années là qui m'ont permis aussi de cheminer un peu ma pensée là-dessus, et de me dire que en fait c'est aussi quelque part toutes les usines se ressemblent, et l'usine musicale fait partie aussi de ce fonctionnement-là, et en fait on se retrouve très vite à devoir jouer de la musique alors qu'on n'en a pas envie, et du coup à ramener ça à quelque chose de pénible et d'obligatoire presque. Et moi, je trouve ça super dur, en fait. Je trouve ça super dur à appréhender, super dur à concevoir et à accepter aussi, en fait. Et c'est pour ça que quelque part, j'aime aussi évoluer dans cette scène un peu DIY, parce que justement, il n'y a pas cette obligation, en fait, de faire de l'art pour subsister, en fait. Et du coup en fait ça amène aussi plein de pistes de réflexion et plein de choses intéressantes, parce que quand on a entre guillemets rien à perdre dans ce qu'on fait, c'est là où on prend le plus de risques, j'ai l'impression. Et en fait si tu choisis l'art comme on va dire métier alimentaire, en fait tu vas passer à côté d'un certain nombre de risques que tu pourrais prendre en fait, et qui en fait te permettent quelque part d'aller de l'avant et de te construire et de grandir en tant qu'être humain, et du coup je trouve ça dommage de passer à côté de ça et de ramener en fait quelque chose qui peut être super fort et qui peut être vecteur d'une énergie incroyable et d'idées super puissantes il faut que je mette du beurre dans mes pâtes, et du coup le ramener à simplement une fonction d'entertainment en fait, et je trouve ça super compliqué mais super violent aussi en fait quelque part, parce que en fait je pense que aucun musicien et aucun artiste en général n'a vocation à vivre, à faire passer son art de cette manière là et après c'est ma vision des choses, mais voilà. Et du coup en fait c'est une certaine forme de violence, et genre de réduire en fait tout simplement quelque chose que tu fais et qui est super perso à animer un gala pour la société générale. Moi c'est des choses que j'ai vues que j'ai vu dans mon, enfin, du coup, dans mon métier, entre guillemets, enfin, dans mon activité, soit d'ingénieur du son, soit de musicien, c'est, si une grosse entreprise t'appelle pour jouer, ben, t'y vas, en fait. Et tu remets rien en question, et juste, tu le fais, et en fait, du coup, ben, en fait, il n'y a plus vraiment de raison, et plus vraiment de... Et plus vraiment de sens en fait à tout ça, juste à part amuser une centaine de personnes un soir et puis après aucune autre portée que celle-là en fait, juste c'est super bizarre, mais c'est abrutir les gens avec de la culture
Ouais.
Et du coup je trouve ça je trouve que du coup c'est l'art est une arme super puissante, mais en fait ça dépend aussi comment tu l'utilises. C'est-à-dire que tu peux aussi faire des choses super formatées pour que les gens ne te posent zéro question et genre juste passent un bon moment, consomment et rentrent chez eux. Et en fait, la limite, parfois, elle est poreuse aussi. Et du coup, voilà. Je pense que c'est un questionnement qui est hyper, hyper important et voilà.
Ludo, est-ce que tu penses, toi, que l'art sert à prouver que la vie est plus importante que l'art?
Je savais pas dire. Après, moi, de mon point de vue, par rapport, c'est que moi, je suis graphiste et alors actuellement, je suis en salariat, mais je vais pas tarder à le quitter justement pour revenir à une activité de graphiste indépendant. Après, je le vois pas comme la musique justement par rapport à ce que disait Quentin, où la musique, j'ai pas envie de la faire pour vivre, parce que c'est un truc perso, je pense. Enfin, c'est plus un outil quoi, pour dégager des choses et les faire se rencontrer avec d'autres et partager avec d'autres personnes. Le graphisme, je peux le voir plus, il y a une fonction un peu plus, on va dire, d'outil de service, où ça peut être servir une image pour quelqu'un ou quelque chose comme ça, et où je vois une possibilité de mettre des influences perso, de l'intention là-dedans. Et je pense que ça peut être aussi un outil assez, assez fort pour justement diffuser des idées. Et après, ouais, c'est important d'en avoir conscience, de savoir où on se positionne, quoi. Enfin, j'aime pas trop après le mot artiste, ouais, ce genre de blase. Moi, c'est des trucs avec lesquels je suis pas confortable, mais ouais, c'est des trucs qui se réfléchissent. À savoir, enfin après c'est toujours compliqué de trouver l'entre-deux quoi. Est-ce que t'es assez confort pour pouvoir faire juste des choses qui te plaisent, ou est-ce que t'es obligé des fois peut-être de faire des concessions et d'aller vers des projets qui te bottent moins? Et du coup à partir de là justement, si ça devient une nécessité comme disait Quentin tout à l'heure pour avoir de la thune, est-ce que c'est vraiment viable en fait sur le long terme quoi, et est-ce que c'est là-dedans que tu t'y retrouves? Après, c'est en fonction de plein de paramètres perso, je pense, de vision des choses, de comment tu décides de t'émanciper, de te retrouver là-dedans. Mais c'est des questions que je me pose tous les jours et je suis pas toujours sûr justement des choix que je fais par rapport à tout ça. Mais ouais, je pensais à un truc justement en construction perpétuelle, quoi.
C'est un peu comme une prison dorée, je vois ça, où tu peux parfois juste te contenter du titre de noblesse, d'artiste, en fait, quelque part. T'as l'impression que ça peut se suffire parfois, quoi.
Ouais.
Que ça projette tellement de fantasmes chez les autres.
Oui,
que
parce qu'il y a tout ça
tu
aussi,
t'en contentes aussi. Ouais, voilà. Avec, ouais.
Oui, parce qu'il y a tout ce truc en plus de l'image, l'artiste, je sais pas, un peu genre, torturé, qui fait ses trucs un peu à l'arrache, mais qui a une vie romantique, enfin bref, t'as tout un tas de bullshit qui vont avec, quoi. Mais ouais, la question de base, je saurais pas y répondre, mais. Mais ça en enclenche plein d'autres qui sont super intéressantes à se poser par rapport à la place qu'on occupe dans ces milieux-là, justement, et comment on s'en sert, en fait, de ces outils aussi.
Tout à fait, parce que je pense que ce milieu-là, la scène punk, il faut pas qu'il y ait que des artistes non plus, toi, je schématise.
Ah non, clairement pas.
Non, ouais.
Bah sinon, tu retombes encore dans un entre-soi.
Complètement.
Tout le monde a les mêmes codes, les mêmes références, et est en train de se les partager en mode « Ah, toi aussi, tu connais ça, c'est trop bien. » Mais tu n'apprends rien d'autre, en fait, parce que tu vois pas de personnes avec des expériences différentes et des savoirs différents non plus, quoi.
C'est ça, vive le savoir. Le savoir est une arme, toi-même, tu sais. Ouais, bien. Et un titre de votre liste ça vous dit votre playlist? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir?
On pourrait se finir par un peu de screamo italien.
Ah. Allez.
Qui était, vous les avez vus au Fluff là qui était ou
non,
nope,
trop
non.
Jeune.
Donc t'as écrit un titre aussi qui s'appelle Fragment. Oui. Alors moi bon, ça m'a fait penser au fragment d'un discours amoureux de Barthes. Et toi aussi évidemment.
Bien entendu.
Ouais, trop bien. Ah,
ce qu'on fait. La première chose à laquelle j'ai pensé.
On l'écoute. Tu vas voir. Écoutons-le, Roland. Et puis après, on en parle vite fait, pas forcément sur le thème, la thématique de l'amour. Parce que là on en a pour des heures et des heures mais on peut l'ouvrir à d'autres spectres. Fragments.
Je crois qu'il faut distinguer entre ce que j'appelle le discours amoureux, c'est-à-dire l'espèce de soliloque d'ailleurs extrêmement fragmenté, morcelé, désordonné que le sujet amoureux se tient dans sa tête lorsqu'il est amoureux, et l'histoire d'amour, c'est-à-dire ce que la société en quelque sorte qui se délègue à ses romanciers, d'ailleurs pour notre plus grand plaisir, ce que la société fait de ce sentiment amoureux en lui donnant l'espèce d'harmonie, même souvent, même s'il est un peu douloureuse, d'une histoire, d'un récit.
Yep. Alors l'idée, en fait, c'était un peu l'opposition entre le discours et l'histoire.
Alors, et le récit, oui.
Et le récit, absolument. Donc voilà, comment concilier les deux? Alors comment dépasser en fait le grief qui sera le discours, pour en venir un peu au relief. Grief, je suis assez content de moi.
Pas mal.
qui serait en fait non pas l'histoire que l'on raconte en fait, que la société nous fait raconter, mais sa propre histoire en fait. Donc vous êtes plus discours ou histoire?
Oula, moi je dirais plutôt histoire, parce que en fait, c'est le plus important, c'est d'arriver à se raconter sa propre vie à soi-même aussi. Et quelque part, en fait, si on n'est pas capable de faire ça, alors on est incapable de la raconter aux autres et de l'échanger avec les autres. Donc moi, je partirais plus sur l'histoire.
Mmh. Ouais, dans la maîtrise du récit, en fait.
C'est
puisque
ouais.
C'est à nous de raconter notre propre histoire, en fait, de nos luttes.
Mais du coup, le discours, c'est pas le fait de parler de son expérience personnelle?
C'est un peu ouais. Les deux.
J'ai pas trop les notions après précises
en
tête.
Mais... le...
Non, ça va, merci. Je pense que les deux peuvent se nourrir. Après, on a vu ce débat il y a pas longtemps. Il y a une projection au Picmill sur un documentaire sur le collectif Clodo qui brûlait des ordinateurs dans les années 80 à Toulouse. Et il y avait la notion d'archive qui était pas mal abordée dans le docu et qui a pas mal fait débat à la fin sur le fait de... Quelles sont nos archives, en fait? Comment on les conserve? Est-ce qu'elles sont subjectives? Est-ce qu'elles font état d'un truc général? Ou est-ce qu'il y a forcément des intentions derrière? Rien que dans le fait de choisir ce qu'on va classer, comment on va le classer. Et je pense que c'est des trucs assez intéressants à se demander, de savoir... Enfin, on a cette histoire-là à disposition, mais d'où est-ce qu'elle vient? Par quoi elle est passée, en fait, pour qu'on l'ait de ce point de vue-là? Et... Du coup, j'arrive toujours pas à situer le discours et le récit là-dedans, mais enfin, qu'est-ce qui se définit? Ouais, je pense que les deux se nourrissent, probablement.
Genre... probablement. Non, non, mais après, oui, qui raconte les histoires, hein, là, pour le coup, le récit, t'as le récit national, en fait,
ouais,
quelque part, ça, ouais. Tu vois, qui va s'emparer, en fait, des histoires pour les raconter. Si c'est des les universitaires du punk qui en branlent punk, tu vois, je trouve pas ça forcément intéressant, quoi.
Ouais.
Mais c'est eux qui maîtrisent je dirais, l'outil par lequel tu racontes.
Ouais.
Donc c'est pour ça que je trouve ça hyper intéressant, l'idée même d'archives.
Je pense, après, de garder une trace de tous ces mouvements, c'est important quand même, parce que... Si on n'a pas toutes ces choses-là, en fait, on peut pas savoir ce qui a été fait et on peut pas se servir de ces trucs-là, que ce soit les bons ou les mauvais côtés, en fait,
ouais.
Pour soit les reproduire, soit les améliorer, soit justement les détruire pour plus les refaire, faire les mêmes erreurs. Mais ouais, ça dépend dans quelle mesure tu parles d'archives. Après, c'est dans une logique plus juste de collection ou vraiment de... Mémoire collective, je pense,
ouais,
c'est pas la même chose.
Ah, complètement. Ouais, voilà, moi, c'est évidemment, la mémoire collective est importante, quoi. Mais l'outil en tant que, tu vois, un outil un peu universitaire, c'est pour le ramener toujours à ce
qu'on
étudie, ça m'intéresse pas réellement.
Non, mais bien sûr, je pense que là où ça vit le plus, c'est dans les échanges, justement, et le fait d'en parler, de se retrouver, d'être dans le réel, quoi, et pas dans truc cloisonné... Et méga codifié, quoi.
Carrément. D'ailleurs, vous voulez du réel, hein? Ouais, je vous mets un peu de réel.
Pays sont soutenus que la France est un pays révolutionnaire et moi j'ai le sentiment qu'on est arrivé en fait à un seuil où c'est plus possible, où des gens qui sont pas des primo manifestants, des gens monsieur et madame tout le monde ont une réaction un peu désespérée et viennent dans des endroits comme ça alors que c'est risqué, on sait qu'on peut perdre un œil, on peut être matraqué. Voilà. Après, qu'est-ce qui serait passé si on n'avait pas manifesté? Je pense que ça aurait été un boulevard pour cette politique un peu folle du néolibéralisme.
Vous estimez avoir obtenu grand-chose?
Je pense que les plus faibles d'entre nous, non, on n'a pas obtenu suffisamment. Et je pense que ce n'est pas juste une histoire d'argent ponctuellement qu'on donne. Il faut vraiment revoir entièrement le système de répartition des ressources. C'est pas normal qu'on ait maintenant 9 300 000 personnes sous le seuil de pauvreté. On est la 6e puissance économique dans le monde. Il y a un problème dans l'équation. Il y a un coup d'arrêt. Là, les gens, en fait, ils sont tellement misés qu'ils s'arrêteront pas là.
La colère, elle est plus forte qu'il y a un an.
Je pense que il y a quand même de la résignation. Mais les gens, est-ce qu'on peut dire que c'est de la colère ou du désespoir? La nuance, elle est ténue. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont désespérés, en fait.
Ouais, voilà, c'était pour boucler sur la colère, en fait. Et le gars, il pose la question entre colère ou désespoir. C'est quoi votre...
je trouve que la comparaison est super intéressante, en fait, parce qu'en fait, je pense que la limite, pareil, elle est... Enfin, dans ce cas-là, elle est super poreuse, en fait. Et c'est peut-être, en fait, cette forme de désespoir, c'est aussi, quelque part, c'est l'issue de ce désespoir, c'est la colère, en fait. C'est-à-dire que la colère devient un outil pour exprimer ce désespoir et pour le montrer, en fait, et pour tout simplement le faire, le faire vivre, parce qu'en fait, il s'agit de ça, c'est-à-dire de tout simplement exposer une situation super compliquée dans laquelle on se retrouve tous plus ou moins, en fait, aujourd'hui. Et en fait, justement, cette colère-là, elle sert pour moi à mettre en avant ce désespoir-là, et c'est hyper interdépendant, en fait. Et voilà. Et je pense que l'extrait le montre bien, quoi.
Ouais, je pense que c'est le seuil de désespoir, en fait, qui amène à lâcher, du coup, cette colère-là. Enfin, t'arrives à une saturation, en fait, de plein de choses, et du coup, le seul moyen que tu trouves de l'exprimer, c'est ta colère, et là, elle s'exprime dans les manifs. Je n'ai rien à ajouter forcément de plus, mais...
Bon, la boucle est bouclée, le pavé est lancé. Vous avez un truc à rajouter, même en dehors, si vous avez d'autres groupes, si vous voulez parler d'un truc, si vous...
Je sais pas, non. Rien qui nous vient, c'est pas tellement. Merci pour l'invite, en tout cas.
Avec plaisir, ouais, c'était trop. Ouais, cool, c'est vraiment bien. Désolé pour le sketch du début, qui était tout, tout pourri, quoi. Et bah écoutez, non, vraiment rien à rajouter. Alors, un petit big up, un petit bon anniversaire, on a dit
à David.
Par rapport au projet, il devrait sortir.
Ouais, là c'est sorti en digital pour le moment. Il y a une sortie physique qui est prévue en vinyle sur le label Stonehenge et Satan L Bike Punk.
Yes.
En coprod. Et ça devrait arriver. Les délais de pressage là, c'est un peu compliqué. Mais
2027.
Voilà, c'est ça.
Vous pourrez faire 5 albums entre temps, quoi.
C'est ça. Non, je pense d'ici septembre, octobre.
Ouais.
On espère.
Ok, trop bien.
Voilà.
Alors, je vais faire en solo un truc que je sais pas bien faire, c'est pas moi qui le fais d'habitude, mais bon, je me lance. Alors, ainsi s'achève l'épisode numéro 620 de La Vie d'Ordure. On se retrouve, si tout va bien, dans 15 jours. Et ouais. Mais d'ici là, restez. Et c'est là. Alors, restez. Restez, transformer la colère inutile en propositions, échanges et compétences et outils de partage. Et restez, on n'est pas devin, les choses peuvent changer en bien. Et restez, toutes les usines se ressemblent. Voilà.
Pas mal.
Yes.
Pétard, c'était chaud. C'était trop de pression, Steph, reviens, trop de pression. Bon, mais on balance le générique. Et plein de bisous, et puis à la prochaine. Salut. Ciao, bye bye.
Quelle idée de l'homme avez-vous ?
Eh bien, je crois que l'homme a été, sinon un mauvais rêve, sinon un cauchemar, du moins une figure très particulière, très déterminée, historiquement située à l'intérieur de notre culture.
Vous voulez dire que c'est une invention ?
C'est une invention
que l'homme.